Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez dans les épisodes précédents commencé à voyager, et après Vienne qui vous a fait grande impression, l'Allemagne. Vous y faites quoi? Vous y rencontrez qui?
C'est un des voyages qui a marqué le plus ma vie. En 1946, en automne, c'était un bel automne, l'Europe était quand même au milieu d'un chaos, politique, des populations qui émigraient, des exils, je pense qu'il y avait 12 millions de personnes sur les routes. Alors, en 1946, il faut aussi ne pas oublier que s'annonce la création de l'État d'Israël. Et alors, il s'engage, je ne sais pas, les historiens vont le dire mieux que moi, une sorte de course de vitesse concernant l'immigration en Israël. C'est-à-dire la possibilité de diriger les vagues, ce qui restait de cette vague d'immigration, de déportation, c'est-à-dire les réfugiés, d'essayer de les transporter le plus et le plus vite vers Israël. Et c'est donc à cette époque-là qu'on m'envoie, ou Dovberger, toujours le même, vers Munich. Ce voyage a été pour moi très marquant parce que c'était donc je fais le même itinéraire, Budapest, Vienne, et j'arrive à Salzbourg, et pour la première fois je rentre et j'habite dans un camp qu'on appelait à ce moment-là des personnes déplacées. Ça peut apparaître assez extraordinaire, mais ce camp de personnes déplacées était situé pratiquement, quasiment au centre de Salzbourg, près du Mirabelgarten. C'était de sorte, je ne sais pas comment on peut décrire, des baraquements, une sorte de colonie assez grise sur laquelle on déversait tout le temps cette musique sirupeuse qu'on entend maintenant dans les aéroports. Et en fait, je pensais que je vais rester très, très peu de temps pour aller ensuite vers Munich. En fait, finalement, je suis resté environ 2 semaines ou 3 semaines, et c'était ma première rencontre avec les rescapés. Rencontre, c'est même pas le terme, c'est-à-dire j'ai vécu comme eux et avec eux. Et là, tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais lu devenait corps. Si vous voulez, j'entrais dans cette collectivité puisque j'y vivais, et j'ai commencé à parler avec les gens et à entendre ce qui s'est vraiment passé dans les camps d'extermination. On dit que les gens n'ont pas parlé, mais les gens parlaient, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, si on peut dire. De cette période de l'histoire des rescapés, on a très peu écrit. Il y a très peu de documents. On ne parle pas de ce deuxième exil, de ce deuxième exode des rescapés qui, une fois rentrés chez eux, sont repartis et sont retrouvés dans les mêmes camps, soutenu par l'UNRWA, par le Joint, c'était assez pauvre, on ne s'occupait pas vraiment d'eux, certains sont retrouvés dans les mêmes camps de concentration d'où ils sont sortis, c'était assez déchirant, c'est le terme que j'utiliserais, et c'est là où j'ai commencé à entendre et à comprendre et à faire de vivre, hein, parce que finalement quand on est plongé dans cette collectivité, on commence à vivre la vie des autres, hein. Et alors tout ce que j'ai entendu sur la fuite, par exemple, comment les gens se sont cachés dans les maisons, comment ils ont été débusqués par la police allemande, puis la police ukrainienne, puis les gens qui sont réfugiés dans les campagnes. Et puis la chose qui m'a le plus blessé, et blessé durablement, parce que vraiment lorsque je parle de cela, ça revient. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette partie du livre. C'est la découverte, en fait, de l'infanticide. Salzbourg, pour moi, c'est un peu ça. J'ai découvert que les enfants ont été assez systématiquement exterminés. Et après, j'ai regardé plus tard des statistiques, et c'est vrai, il y a beaucoup d'enfants, on oublie cela, qui ont été systématiquement tué. Et puis en même temps, c'était la vie. C'était aussi la découverte que les rescapés ont cherché à se créer une existence sociale. Je décris cette préoccupation constante du mariage. Je croyais qu'être en Roumanie, on s'occupait toujours de marier les filles et les garçons. Oui, cette préoccupation du mariage. Après tout, dans les camps, il y avait à ce moment-là une sorte de misère. Donc les gens se mettaient à faire du marché noir. Et puis, dans cette existence qui était blessée, vide, le départ pour Israël, ce n'était pas des idéalistes ou des sionistes. Le départ pour Israël, c'était pour les gens sortir de cet exode et trouver un sens à leur existence. Et donc, je suis resté environ 2-3 semaines à Salzbourg, et après, j'ai repris mon chemin, si on peut dire.
Mais en parlant de cette période, de tout le voyage en Allemagne, oui. Salzbourg, Munich, etc., oui. Vous dites à un moment donné dans votre livre, vous écrivez du moins, s'il s'était senti un peu plus coupable, vous parlez des Allemands, je me serais senti peut-être un peu moins innocent.
Oui, mais parce que donc je suis parti de Salzbourg dans un autre camp de personnes déplacées, et plusieurs fois je suis allé à Munich. Et à Munich, j'aurais voulu. Après tout, je me trouvais pour la première fois parmi les Allemands. Les Allemands, je n'ai connu que la menace, la guerre, etc. J'ai vécu parmi eux. Et je parlais assez bien à l'allemand, et je le comprends toujours très bien, je pense, et je peux le parler. Et ce qui m'avait frappé, c'est cette innocence. C'est-à-dire, la guerre, ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est une chose qui préoccupait par les gens. Et je dis, ça, ce qui m'avait frappé, c'est que les gens se sentaient innocents. C'est ce qui s'est passé à propos des Juifs et pour le reste. Ce n'était pas eux. Ce n'était pas leur... Personne ne connaissait des nazis. Personne n'a jamais été nazi. Personne n'a jamais connu, après tout, cette destruction énorme en Russie, je ne parle pas de l'extermination des Juifs.
Par contre, les Allemands ont très souvent, quand ils ont parlé avec vous, dit, expliqué, justifié le fait qu'ils sont un peuple de discipline et qu'en fait, ils n'ont jamais fait ce qu'on leur avait appris de faire, c'est-à-dire obéir.
Oui, mais je dirais, ce qui était extraordinaire, ils n'en connaissaient pas des nazis. Et alors, donc, je dis ça parce que, pour la première fois, j'ai été... C'est une chose que je ressens beaucoup aujourd'hui même. C'est cette déclaration d'innocence, ce visage d'innocence, vous voyez. Et alors, je dis que si c'était senti moins... plus coupable, je me serais senti moins innocent. C'est parce que si ça était plus coupable, j'aurais pu me dire, mais après tout, moi, je suis pour quelque chose dans ce qui s'est passé, parce qu'il y aurait un dialogue. Vous comprenez, avec des innocents, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler avec M. Papon, par exemple. Lui, il est innocent. Alors, le dialogue est complètement cassé. Vous voyez ? Et en fait, quand je dis que je me serais senti un peu plus coupable, ça veut dire que j'aurais essayé de les comprendre, s'ils me comprennent moi. Hein ? Et c'est ça que je veux dire.
Découvrez l'horreur de la Shoah dans ces camps de rescapés, comme on les appelait. Vous rencontrez les gens, vous parlez avec eux. Contrairement à ce qu'on a pu dire, ils vous parlent eux aussi. Et à un moment donné, vous vous retrouvez. Alors tout ne se suit pas. On se découvre un petit peu en lisant ce livre. Vous vous retrouvez à Dachau et là, c'est le choc.
Là, c'était le choc parce que tous ces noms étaient abstraits. Oui. Et donc, je ne me rendais pas compte que Dachau était si près de Munich. D'ailleurs, ça m'a pris longtemps. Je l'ai découvert seulement dans les années 70. Et donc, on passe devant Dachau et avec un de ces camions du Joint. Et le type me dit, là, c'est Dachau. Et je veux descendre. Il me dit, mais pourquoi tu veux descendre? Il n'y a rien à voir. Enfin, c'est terrible. Et je descends et je rentre dans cette ville, dans cette petite ville, propre, fleurie, blanche. Et donc j'avance, c'était, je pense, vers midi, et je vois au loin, enfin, pas très loin, le camp. Et je me souviendrai toujours, c'est un souvenir que j'ai toujours gardé, je me suis reculé. Et je me suis adossé à un immeuble. J'ai encore l'image de cet immeuble blanc, un immeuble de 3-4 étages qui donnait sur la perspective des camps. Et là, je n'ai même pas osé le décrire parce que j'étais comme ça paralysé et j'avais des douleurs qui traversaient le corps. Je me suis mis à pleurer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne pleurais pas souvent. J'avais du mal à pleurer, c'est une chose. Et en même temps, je vois le camp, j'imagine la vie. Hein, et en même temps, je me dis, mais après tout, tout le monde l'a vu. Hein, je ne sais pas si j'ai écrit ça, je ne pense pas. Tout le monde l'a vu. Et puis, à un moment donné, un vieux monsieur s'approche, il me regarde, et puis il s'éloigne. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il faut que je me prenne en main. Et pour moi, c'était vraiment la vue. La vue de tout ce qu'on m'a parlé. Parce que, comme je décris dans ce livre, pendant ce voyage, j'ai découvert une autre géographie de l'Europe. C'est-à-dire que tous les gens parlaient de toute cette chaîne souterraine, de tous ces camps, et Dachau était vraiment une sorte de centre. On parlait moins d'Auschwitz à ce moment-là, qui est devenu maintenant le symbole de ça. Et j'ai pris avec moi ce souvenir de cette journée à Dachau qui a marqué une sorte de tournant dans ma vie, parce que là, c'était vraiment concrètement, pour la première fois, que je me suis rendu compte de ce qui s'est passé.
De retour d'Allemagne, votre vie, j'avais écrit dans un premier temps, reprend son bonhomme de chemin, mais en fait, c'est pas ça du tout, parce que, a priori, effectivement, tout est normal, mais dans votre tête, il y a vraiment quelque chose qui a changé, qui est cassé.
Oui, j'essaie de m'expliquer dans ce livre, parce que vraiment, quelque chose de la vision que j'avais de l'histoire, de mon propre existence, tout a été bouleversé. Parce que quand on vit à côté de des gens qui ont connu ces épreuves, on parle avec eux, les dimensions de la vie, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce dont on doit avoir peur ou pas, change complètement. Et à ce moment-là, j'avais dit, ça a été comme une sorte de rupture et en même temps une ouverture.
Dans notre prochain épisode, nous préparerons nos valises pour partir une nouvelle fois avec vous. Nous essaierons d'aller à Paris. Et quand je dis nous essaierons, c'est que la route est encore longue.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.